Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans le studio de Radio Foot International sur RFI, comme chaque après-midi, pour vous tenir au courant des dernières informations de ce monde footballistique. Nous commencerons par la colère d'un pharaon. Mo Salah, meilleur buteur d'Angleterre, champion d'Europe avec les Reds, ignoré sur le podium de The Best et snobé par sa propre fédération. Sa colère est devenue une crise, dit-on, en Égypte, comme tout ce qui touche à Mohamed Salah, dans une nation toujours convalescente après sa mauvaise canne. Nous irons au Caire pour en savoir plus. Monaco au rebond, l'équipe de Leonardo Jardim gagne enfin et séduit enfin. Son effectif est-il sur la bonne route ? Passé déjà 7 journées de Ligue 1, nous nous poserons la question, alors que l'OM reste sur le podium, mais dans la souffrance. Un trio de choc titulaire au Barça et Messi fait marquer Griezmann. Cette connexion marquera-t-elle le vrai début de la saison des Blaugrana, alors que Messi s'est encore blessé et que Ansu Fati semble s'installer au poste de Suarez. Nous parlerons de l'OM. Un ancien Marseillais est là. Bonjour Marc Livra.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être dans Radio Foot International aujourd'hui. Face à vous, Chérif Guémour. Bonjour Chérif.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Et puis Naïm Moniol. Bonjour
salut
Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Hugo Moissonnier est avec nous aujourd'hui. Bonjour Hugo.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis notre stagiaire aussi, Ralph Samoury. Bonjour Ralph.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Un salut amical avant de lancer l'émission à Abraham de Ouagadougou. Bon anniversaire à ce très fidèle auditeur. Radio Foot, c'est parti. Un pharaon, idole de tout un peuple, mais un pharaon en colère. Mohamed Salah a terminé au pied du podium lors de l'élection du meilleur joueur de la saison à l'élection FIFA The Best, dont nous avons pas mal parlé hier dans Radio Foot. Salah était quatrième, juste derrière Messi, Van Dijk et Cristiano Ronaldo, et juste aussi devant Sadio Mané, qui a terminé cinquième. Mais ce qui chagrine le meilleur buteur de Liverpool, c'est le détail des votes. Nous l'évoquions hier d'une manière générale pour ceux qui étaient des votants du continent africain et l'Égypte en particulier. Hugo, c'est ce qui a mis Salah en colère, c'est qu'en gros les Égyptiens n'ont pas voté pour lui.
Ouais, il ne marche jamais seul dans le nord de l'Angleterre. Dans son pays, c'est un petit peu moins évident puisque, on le rappelle, 4 collèges d'électeurs. Vous êtes impressionné par cette entrée en matière. Le Marseillais que vous êtes, c'est reconnaître les hommes qui savent manier la langue. 4 collèges d'électeurs, donc, pour le prix The Best, les fans, les journalistes, les sélectionneurs et les capitaines de sélection. Alors, dans ces deux dernières cases, le problème, c'est que du côté de l'Égypte, eh ben, il n'y avait rien, tout simplement. On n'avait pas oublié de remplir ces cases, et c'est un petit peu ballot. Du coup, il n'a pas pu compter. Alors, il n'y a pas vraiment de sélectionneurs à l'époque où les votes
ont été enregistrés.
Se terminaient au moment où les votes étaient enregistrés en août.
Ça se terminait le 19 août.
Exactement. On rappelle que l'Égypte s'est un peu raté lors de sa CAN à domicile. Aguirre avait pris la porte, donc Choky Garrigue, qui faisait office de sélectionneur, n'aurait pas, en tout cas officiellement pas voté pour Salah, pas plus que El Mohamadi, le capitaine des pharaons. Un Égyptien a tout de même été en mesure de voter pour ce prix The Best, un journaliste qui lui aurait plutôt décidé de placer Mané en tête de sa liste et non pas Salah. Donc aucune voix égyptienne pour soutenir Mo Salah dans cette élection The Best. Le problème, c'est que du côté de la fédération égyptienne, on conteste cette version des faits. On dit tout simplement que si El Mohamadi et Garib ont bien voté, simplement leurs votes n'ont pas été enregistrés. Ouais. Et donc la fédération égyptienne demande sur les réseaux sociaux des explications à la FIFA sur ces votes qui auraient disparu.
Alors la colère, ça là, il l'a exprimé d'une certaine manière, c'était sur Twitter, où il se montre hein, avec le drapeau égyptien et avec des supporters, et il a mis cette phrase, peu importe à quel point ils essaient de changer mon amour pour toi et pour ton peuple, ils ne comprendront pas, et surtout ils n'y arrivent pas. En gros, c'est ils essayent de nous brouiller, moi et vous, les supporters, mais ils n'y arriveront pas. On va poser cette question à Karim Farouk, qui est un confrère qui travaille pour Al Ahram Hebdo, un magazine en français du côté du Caire et que nous avions rencontré lors de notre voyage au mois d'avril. Bonjour Karim.
Bonjour, comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Ça va.
Alors Karim, vous avez entendu ce qu'on développait en début d'émission. Moi, j'aurais voulu savoir quels sont les échos qu'on a de cette affaire au Caire. Et est-ce que c'est une affaire, presque une affaire d'État ou une crise? Et peut-être, on y viendra après, une énième crise entre Mohamed Salah et sa fédération égyptienne.
Oui, bien sûr, c'est une crise. On ne peut pas dire que c'est une affaire d'État, mais en tout cas, c'est une crise parce que ça concerne Mohamed Salah, la grande vedette du football égyptien. Et un nouveau chapitre dans ce problème avec la fédération. Ce qui se passe, je pense, en gros, quoi, ça, c'est après la défaite lors de la CAN, il y avait un peu un désordre dans la fédération après la démission de l'ancien conseil et la nomination d'un nouveau comité provisoire qui était en août. Le capitaine El Mohammadi et la fédération, ils confirment qu'ils ont envoyé leur vote, mais je pense qu'ils les ont envoyés après les délais prévus. Et c'est ce qui a fait que la case de l'Égypte a été vide. C'est encore un détail, mais ça fait la différence pour Mohamed Salah, qui pensait qu'il pouvait avoir plus de support, même s'il n'aurait pas été sur le podium, mais au moins, il aurait eu le support de sa fédération. Il y a plein de joueurs qui ont posté leur photo avec lui, qui ont dit qu'il a raison d'être en colère. La fédération hier a issu un communiqué demandant des explications, mais je pense, et tout le monde le pense d'ailleurs, que c'est encore une fois un détail d'organisation, mauvaise organisation, non-respect des délais, quelque chose quoi d'habituel ici. Mmh.
Le journaliste égyptien qui a voté, un confrère à vous donc, n'a pas mis Mohamed Salah en premier, il l'a mis en troisième, il a mis donc Mané en premier et Cristiano Ronaldo deuxième. Est-ce que si vous aviez voté, Karim, vous auriez mis Salah en premier? Et autre question, parce que maintenant que ces votes sont publics et on voit donc la colère indirecte de Salah, est-ce que vous seriez peut-être senti obligé aussi de mettre Salah en premier?
Obligé, non, je ne pense pas. Il faut être vraiment assez objectif, mais d'un point de vue objectif aussi, je pense que Salah, Mané, Van Dijk, ils méritaient vraiment une position sur le podium, champion d'Europe, Mané finaliste d'Afrique. Van Dijk, vraiment, il a eu un rôle extraordinaire dans la transformation de la défense de Liverpool. Mais je pense que les performances individuelles, surtout de Messi, elles comptent beaucoup. Mais au côté collectif, il n'a pas vraiment fait beaucoup de choses. Il était même absent pour quelques rencontres. Mais c'était vraiment étonnant de ne pas voir ni Salah ni Mané sur le podium cette année.
Oui, sur le podium et aussi dans le 11 type, hein, dans l'équipe
surtout
type.
Ça, ouais.
Voilà. Vos réactions, ouais. Messieurs Naïm Ognol?
D'abord, non mais
ça
d'abord,
vous inspire pas.
Non, si, ça m'inspire. Non,
mais il aurait rapporté les ça. Ouais,
non, mais c'est surtout que, c'est surtout l'image du football africain une fois de plus qui est perdante parce que c'est preuve d'un amateurisme, que ce soit parce qu'ils ont pas voté pour ou parce qu'ils ont voté en retard, c'est quand même dans les deux cas un pur scandale.
Alors a priori, l'entraîneur et le joueur, on l'a pas précisé, mais
bah
c'était
si, en fait,
de préciser.
Les conséquences sont les mêmes.
Aurait bien voté pour ça là. Aurait bien voté
les
pour.
Les conséquences sont absolument les mêmes puisque de toute façon aujourd'hui il y a une polémique. Donc voilà.
Mais t'as ton libre arbitre, t'es pas obligé de voter pour un joueur de ton pays.
T'es pas obligé de voter pour lui seulement.
Tout, non, mais là, c'est pas voté du tout.
C'est pas une histoire de libre arbitre ou de polémique. C'est
okay.
Qu'à un moment donné, si ton meilleur joueur est des joueurs de cette classe, l'Égypte, on n'a pas tout le tour du ventre. Mmh. Si ton meilleur joueur, qui est déjà en conflit avec ta fédération, si tu peux essayer d'acheter la paix sociale en votant pour lui et en donnant une image un peu cohérente de ta fédération où tout le monde tire dans le même sens, tu peux le faire. Je vois pas en quoi c'est. Non, t'es pas d'accord.
Non, mais continue.
Non, bah vas-y, je t'écoute.
Naïm, la version officielle, c'est que El Mohamadi et Garib ont voté pour
la version officielle.
Ont bien voté pour Salah.
Mais
ça,
que
là,
le truc qui arrive en retard, ou que la
enregistré, mais c'est la
comptabilisé.
C'est-à-dire que la FIFA, c'est le journaliste égyptien qui n'a pas voté pour
La FIFA a comptabilisé tous les votes de tous les pays sauf l'Égypte. Sauf l'Égyptien, comme par hasard.
Non, il y a d'autres nations africaines d'ailleurs qui sont concernées par le non-enregistrement des votes, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Bénin par exemple.
Ouais, là, ça, on rejoint le mot amateurisme. Chérif, pourquoi n'êtes-vous pas d'accord ?
Non, parce que le journaliste qui a voté, qui n'a pas voté pour Salah, il n'est pas obligé de voter.
Comme mais je ne parle pas du journaliste, je parle du président de fédération et du capitaine.
Ouais, Eux qui n'ont pas voté, a priori, en tout cas pas enregistré.
Voilà, c'est pas enregistré. Bon, alors juste non,
mais, parlons de la colère de Salah. Vous la trouvez justifiée?
Pour celle-là, évidemment, comment dire, il y a un amateurisme qui est absolument insupportable. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, ça n'a pas été. Bon. On va voir la suite de l'enquête. Moi, je reviens juste sur le journaliste, parce que bon, on est entre confrères. Le journaliste a le droit de ne pas voter pour Salah. Je rappelle qu'il y a déjà eu des précédents.
Il a voté Salah en 3. Hein.
Voilà, voté Salah en 3. Il n'a pas mis numéro 1. Mais il s'est passé la même chose avec Eusebio dans les années 60. Il a reproché toute sa vie au journaliste portugais de ne pas avoir voté pour lui, pour le Ballon d'Or, France Football. Et la même chose avec Platini en 77, qu'aurait pu l'avoir, mais le journaliste de France Football, français, n'a pas voté pour Platini. Donc, par contre, Eusebio et Platini l'auront voulu toute leur vie aux deux journalistes nationaux. Donc, il y a déjà eu des précédents, on peut comprendre la colère et tout ça, tout. Mais c'est un choix de journaliste, de sportif. Maintenant, la fédération, c'est impardonnable et point la ligne.
Voilà. Ce qui est troublant surtout, c'est qu'il y a un conflit entre Salah et la fédération. C'est à un moment donné, ils peuvent. Tout est bon, la FIFA n'a peut-être pas. Si tu me dis qu'il y a plusieurs pays, c'est possible qu'ils aient pas enregistré. C'est possible qu'ils aient voté pour lui, que ça n'ait pas été comptabilisé, qu'il ait fait retard, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que c'est un épisode supplémentaire dans les relations tumultueuses entre Salah et la fédération. Et c'est ça qui pose un problème, à mon sens.
On va y revenir à ces relations tumultueuses. Mais Marc, est-ce que vous comprenez la colère de Salah?
Pas vraiment. Non. Moi, je comprends pas, non.
Non, mais de voir que sa fédération, en gros, le soutient pas, c'est ça qu'il dit.
Je peux. En fait, quand on veut faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on va aller au clash, qu'on veut être, c'est vrai, on est un joueur important de son pays, on veut mettre des choses en avant, faut pas s'étonner du retour de bâton, quoi. Alors peut-être qu'ils ont validé. Est-ce que si le sélectionneur et le capitaine auraient voté, ça passe ou pas? Je ne dis pas qu'ils sont vengés, mais comme on l'a dit ici, c'est la énième fois qu'il y a un souci avec la fédération et le déclencheur est toujours on va mettre ça là. Donc je veux bien qu'ils fassent des choses, à un moment donné, mais tu fais ce genre de choses, ne te plains pas si derrière t'es en train, tu peux pas leur taper dessus tout le temps et derrière dire ah bah attendez, il faut me soutenir maintenant les amis. On est d'accord.
La fédération utilise l'image de Mohamed Salah à des fins commerciales sans avoir son avis.
Oui,
c'est aussi ça le problème.
Quand il est capable de dire cette fédération ne sait pas gérer, ce sont de l'amateurisme, ok, peut-être, mais on peut pas dire
ça. Il a même pas dit ça, hein, parce que son message est assez subtil, en fait.
Il y a quelques mois, quelques semaines avant les grandes compétitions, il a voulu faire un putsch, il a voulu faire des choses. Donc, si vous voulez, les gens qui sont un petit peu au pouvoir s'en rappellent aussi.
Mais Marc, il y a eu aussi des moments où on se souvient pendant la Coupe du Monde, où il a été beaucoup utilisé, notamment dans un pays qui n'est pas spécialement une démocratie, avec Kadyrov qui, sans arrêt, venait le voir et se prenait en photo avec lui.
À un moment donné, c'est pas parce que les joueurs sont super connus, des stars qui sont multimillionnaires, que c'est des vaches à lait. C'est quand tu utilises l'image d'un joueur à des fins commerciales sans avoir son avis, c'est pas parce qu'il est connu qu'il a de l'argent qu'il doit dire oui à tout. Il a le droit aussi d'être contre.
Karim Farouk, justement, on a l'impression que ces relations qui sont mauvaises depuis plusieurs années entre Mohamed Salah et la fédération égyptienne ne s'améliorent pas.
Non, c'est pas vraiment le cas, parce que maintenant il y a une autre fédération. Comme je vous ai expliqué, il y avait d'abord des problèmes avec l'ancien conseil présidé par Hani Abourid, Magdi Abderrahmani et plein d'autres personnes. Mais toute cette fédération est partie, tout ce conseil est parti. Et il y avait maintenant un nouveau comité provisoire qui a annoncé qu'il veut résoudre tous les problèmes des joueurs. Et même le nouveau sélectionneur égyptien, Hassan El-Badri, a dit qu'il espère que Salah n'aura plus de problèmes avec la fédération et tout. Comme je vous ai dit, je pense que c'était juste un désordre qui a un peu suivi le départ d'un conseil et l'arrivée d'un autre, surtout que les votes devaient être soumis dans cette période. Le conseil de Hani Abourid, qui avait eu tous les problèmes avec Salah, a démissionné juste après la quinzaine en juillet, et il devait être, alors que les votes devaient être soumis à un délai maximum, je pense, si je me rappelle bien, le 19 juillet. Et en ce temps, il n'avait pas envoyé la lettre et la nouvelle fédération, il y avait le directeur exécutif seulement qui était là, qui était en charge du travail quotidien. Et je pense que c'est vraiment, il n'a pas payé attention à de tels détails et les délais. Et ils ont envoyé un peu tard. Mais le nouveau comité qui est là, il n'a pas de problème avec Salah du tout. Bien au contraire, ils l'ont louangé dès qu'ils sont arrivés. Le nouveau entraîneur a fait ainsi. Et donc, c'est ce qu'il voulait du moins, d'avoir des problèmes dans un nouveau chapitre avec les pharaons. Quoi.
Alors, Karim, peut-être que, je ne sais pas, à qui pensez-vous que s'adresse le message de Mohamed Salah sur Twitter alors? Parce qu'il est un peu évasif.
C'est toujours, je pense, au responsable du foot. Il veut que l'État soit... il a déjà annoncé auparavant qu'il a demandé l'intervention du ministère. Il a demandé que les problèmes soient résolus, qu'il n'y ait plus de discipline dans la sélection. Et pour lui, c'est encore un problème qui est arrivé et qui l'a affecté. C'est toujours adressé aux responsables de la fédération, même si les hommes ont été ou les personnes ont été changées. Mais les problèmes, pas les mêmes problèmes persistent, mais d'autres genres de problèmes sont apparus. Mmh.
Une dernière question avant qu'on vous remercie, Karim. On est à peu près à 3 mois de l'élimination de l'Égypte, et on y faisait allusion parce que tout découle un peu de ça aussi, de cette élimination en 8e de finale par l'Afrique du Sud. Est-ce que le traumatisme est toujours là en Égypte? Est-ce que la nomination de ce nouveau sélectionneur, qui est égyptien, qui est un ancien international, ancien entraîneur de Al Ahly, qui est le grand club d'Égypte, est-ce que tout cela est encore à fleur de peau en Égypte? Ou est-ce que ça commence à se tasser?
Non, ça commence à passer. On parle maintenant plutôt d'une nouvelle phase dans le football égyptien. On parle un peu que ça remet en mémoire les années 2005-2004, que lorsque l'Égypte a fait une nouvelle réforme dans des conditions similaires après une élimination prématurée de la CAN, une élimination des qualifications de la Coupe du Monde. À l'époque aussi, on avait nommé un comité provisoire pour la gestion des affaires. Et la nomination de Hassan Chahata en 2005, qui a ensuite fait une âge de gloire pour les pharaons. Et donc il y a un peu un air d'optimisme. On dit qu'il y a de nouvelles personnes à la gestion maintenant, un nouvel entraîneur assez prometteur. Et donc il y a un air d'optimisme qui est présent.
Bon, merci beaucoup Karim Farouk pour ces nouvelles donc plutôt malgré tout positives pour ce qui est de votre sélection et de ces pharaons emmenés par le grand Mohamed Salah. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci à vous et bonne soirée.
Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être,
Chérif, je faisais allusion la réforme de 2005 qui a conduit Chehata à la tête des pharaons, et pour moi l'âge d'or qu'ils ont toujours pas, qu'ils ont pas retrouvé.
Les trois titres de
Cannes. Et avec une équipe fantastique. Malheureusement, qui s'est pas qualifiée pour les Coupes du Monde.
En tout cas, terminons sur ce thème. Dans le quotidien Le Parisien, nos confrères avaient interviewé Mohamed Sissoko, ancien international français, ex-milieu du PSG, qui a joué aussi à Liverpool et qui était un peu d'accord aussi sur ce vote de The Best, où l'absence de Mané et Salah pour lui est vraiment une honte, dit-il. Mais surtout, il dit... c'est vraiment de la nullité. Plein de gens votent sans regarder le palmarès de l'année, mais simplement un réflexe de choisir les plus connus. Bah, oui. Vous avez cette sensation aussi que si on retrouve encore Cristiano et Messi, c'est pour ça.
Qu'est-ce qui fait aussi que ces joueurs-là, à un moment donné, sont tout le temps dans l'équipe? Moi, ce qui me choque surtout sur cette équipe, c'est Marcelo, c'est Ramos,
dans
c'est
l'équipe.
Le
11,
l'équipe.
Ouais, le 11, du 11 de The Best.
C'est
le matraquage médiatique, c'est la puissance marketing, c'est la puissance économique.
Dominique Sévrac nous disait hier la génération YouTuber, finalement. Qui sont beaucoup influencés sur les résumés de buts.
C'est Messi, Ronaldo, la marque Real Madrid vend partout dans le monde. Et le premier réflexe des gens qui votent, c'est de, quand on cherche quel est le meilleur milieu droit, le meilleur arrière gauche, le meilleur ailier, c'est celui du Real, celui du Barça, voilà. Et on ne regarde pas vraiment le jeu, les matchs.
On regarde pas assez de matchs, peut-être, ces gens qui votent, hein.
Oui, mais plus, d'un autre côté, Liverpool, c'est champion d'Europe, c'est Liverpool, c'est à un moment donné, c'est le championnat le plus diffusé dans le monde, le championnat le plus concurrentiel, ils sont champions d'Europe. On les voit. C'est qu'à un moment donné, la puissance, mais ce sont des joueurs, Salah et Mané, qui ont un déficit d'aura commerciale.
Il n'y a pas que les fans, il n'y a pas que les
téléspectateurs qui ont mal voté, entre guillemets. On parle aussi, oui. Olivier Pron les énumérer, notamment de sélectionneurs ou de joueurs africains qui n'ont pas jugé utile de mettre Mané ou de plébisciter Mané. Même des professionnels de la profession.
Là, tu vois, je suis pas d'accord. Parce que, pour le coup, que le président de fédération et le capitaine votent pour le joueur, qui est une espèce de cohérence, de consensus. Voilà. Ça, je veux bien. Mais que les Africains soient obligés de faire l'unanimité derrière le joueur africain, le candidat africain, ça, je suis pas d'accord.
Non, mais c'est pas forcément le joueur africain, mais c'est-à-dire voter au moins pour un joueur de Liverpool. On a bien vu que même des professionnels de la profession ont dans leurs analyses
Messi et Ronaldo.
La volonté de mettre Messi et Ronaldo, quoi qu'il arrive.
Il y a plusieurs choses. D'abord, faut relever la consanguinité du monde des votants, que ce soit les journalistes, les officiels, les entraîneurs et tout ça et tout. Évidemment, ils sont impressionnés par les joueurs qui viennent du Brésil, de l'Argentine, des grandes nations de foot, des grandes marques et des grands clubs. Ça a toujours été comme ça et il y a toujours une prime au sortant. Maintenant, sur la valeur sportive, je suis pas si choqué que ça, que Salah et Mané ne soient pas dans le trio de tête. Alors après, il y a un truc qui me gêne, c'est cette permanence Cristiano et Messi. Sauf que je suis désolé, ils sont encore hyper compétitifs. Dire qu'aujourd'hui un Salah est meilleur que Messi, je suis pas sûr.
Mais de toute façon, hier on parlait de palmarès, et c'est vrai que c'est très abstrait.
Pour en venir maintenant à l'aspect vraiment purement sportif, le caractère de Liverpool. Liverpool, ça a jamais été non plus un club d'individualité. Ça a toujours été un club de collectif. Et malheureusement pour Liverpool, ils ont un trident devant. Ils n'ont pas le numéro 9 classique auquel on se réfère, comme c'est dans le cas dans plusieurs clubs, notamment Manchester United, à la Juve ou au Real, avec un numéro 9.
Oui, oui. Mais ça me rappelle quand, après la Coupe du Monde, on se disait, finalement, dans l'équipe de France, ils vont peut-être perdre le Ballon d'Or, parce que justement, c'était un collectif.
Oui,
exactement. Marc, si vous aviez été sélectionneur ou capitaine d'une sélection nationale, là, et qu'on vous aurait fait voter, vous auriez voté pour Mané ou Salah?
Je suis assez d'accord avec Chérif. Ce sont des joueurs extraordinaires, mais pour moi, Messi, Ronaldo reste encore au-dessus, même au niveau de la performance et à juste titre. Quand on prend Liverpool, c'est difficile de dire Mané a fait tout seul. Certes, il est extraordinaire,
mais
c'est dans un collectif.
Mais
avec Mané aussi, avec Sadio Mané,
Aubameyang,
ils sont ensemble. Mais après, je me dis qu'on se rappelle des images et les images sont toujours importantes. Quand Cristiano est capable de faire chavirer à lui tout seul
le triplé contre l'Atlético.
Là, c'est-à-dire que là, on l'avait dit le lendemain, je crois,
c'est une saison, hein.
Mais on s'arrête aux images. Les images sont très importantes. On va se rappeler d'une boulette de Karius, on va se rappeler d'un truc. Et là, Ronaldo, on se rappelle que ce jour-là, ce qu'il a été capable de faire, ou Messi, ce qu'il a fait sur une saison.
Des coups francs,
Et c'est ça, malheureusement, qui aujourd'hui reste. Et encore, génération YouTube, on les voit en boucle, en boucle, en boucle. Et on va dire, est-ce qu'on favorise aujourd'hui le jeu de Liverpool qui est plaisant? Non, les gens ne regardent pas ça, ils s'arrêtent pas à ce genre de choses.
Alors, le truc. Faut confirmer
rapidement.
Le foot de haut niveau, c'est encore confirmé. Je vous rappelle que Messi, il explose au niveau international en 2006. Son premier Ballon d'Or, c'est 2009. Il a attendu 3 ans quand même.
Alors 2008.
Sauf que quand on parle de la permanence, et du niveau de Messi et Ronaldo, il s'agit pas de comparer Salah Mané avec la carrière de Messi et Ronaldo.
Non, pas la carrière.
Il s'agit de regarder sur la saison. Moi, je veux bien que Messi ait mis des coups francs directs, qu'il ait régalé tout ce que vous voulez. Mais sur la saison, qu'on ne me dise pas que Mané, au moins Mané, ne soit pas dans l'équipe type. Parce que sur la saison, il a été plus efficace, plus décisif que Ronaldo et que Messi.
Sur l'équipe type, je suis d'accord avec toi.
Ils sont d'accord. Hugo, un petit mot à rajouter, non?
Ah non, je vais
dire que Mané est au-dessus de Messi et Ronaldo.
Mais personne dit ça. Personne dit ça.
Le débat est clos, n'est-ce pas? Allez, on continue. De toute façon, c'est un débat, on le sait. Il continuera.
Ils sont encore là.
Je suis sûr que nos auditeurs de Radio Foot, ils le continuent chez eux. Oui, parce qu'il y a un Ballon d'Or là d'ici peu. On va avoir un trio. On verra d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une influence ce vote et le fait qu'ils soient au pied du podium, Mané et Salah? Non.
Ah, je pense qu'ils seront encore au pied du podium, peut-être même plus loin encore.
Les pauvres. On leur dit pas tout de suite. Alors.
À moins que Virgil remporte tout.
Ne nous écoutez pas.
Avec Golovin qui va armer la frappe. C'est un but exceptionnel, signé Golovin.
Oh, le ballon de Slimani.
Et le doublé d'Alexander Golovin. Mais quelle préparation du but par Slimani, de but à 1.
L'interception de Golovin à nouveau, qui échappe à Tabézé. Golovin qui va adresser à Caviar à nouveau, à Wissam Ben Yedder. Il y aura un quatrième but dans ce match. Il est monégasque et il est signé de l'artiste Wissam Ben Yedder.
La première victoire de Monaco en championnat à la 7e journée. Tout arrive à qui sait attendre, hein, dit un dicton français et non pas africain. C'était dans le derby de la Côte d'Azur où Nice semblait favori vu ses résultats depuis le début de saison. Et puis, Monaco de Leonardo Jardim s'est soudain réveillé. Patrick Juillard, qui suit beaucoup l'équipe de Nice hier, nous disait le redouter. C'est donc arrivé. Et buteur, l'un des buteurs entré à la 61e minute, c'est Ben Yedder qui évoque justement la belle entente qu'il y a eu dans ce collectif où tout le monde a semblé tout d'un coup au niveau.
C'est un gros soulagement, je pense que forcément quand on gagne notre première victoire, c'est un gros soulagement. Quand on gagne dans un derby, c'est encore plus. J'espère que ça va nous relancer pour déjà le match de samedi et pour les prochains matchs aussi. C'est pas facile dès le début de jouer ensemble parce qu'il y a des repères, des automatismes. Aujourd'hui, voilà, petit à petit, on essaie de se trouver l'un à l'autre. On a vu, il essaie de me passer des ballons, j'essaie aussi de lui passer des ballons. Ça sera très, très, très important qu'on ait une bonne équipe avec un bon état d'esprit et comme on l'a fait ce soir, de gagner.
Ben Yedder, tout timide après cette victoire. Alors, gagner en plus lors d'un derby. Est-ce qu'il y a un vent d'espoir du côté de Louis II, Marc Libra, notamment, grâce justement peut-être à ce collectif qu'on a enfin vu, et je pense à Golovin qui s'est le plus illustré.
Mais Golovin, déjà, depuis qu'il est arrivé, il a pas mal vécu de blessures. C'était très compliqué. On l'a jamais vraiment vu à son niveau. Ça fait depuis le début de la saison. Même face à Marseille, ça va être un joueur important qui est capable de casser des lignes, de faire la différence. Là, déjà, il y a une chose, c'est que Glick ne joue plus. C'est malheureux, mais il est pas dans le coup. Il est pas nul. C'est qu'il est pas dans le coup. Il n'y arrive plus. Donc là, on repasse à une défense
le
à trois
comme un.
Et malheureusement pour lui et heureusement pour eux, c'est un peu mieux. Le contre retrouve une petite sensation parce que quand le contre arrive, il prend quand même sur deux journées, il prend énormément de buts. Et finalement, on est en train de dire dès le départ, mais finalement, il est au port de l'équipe
buts,
de France.
Au
port de l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est? Il nous sauve pas. Et c'est vrai, il fait des erreurs de main dès le début. Donc bon. Là, je pense que ils ont bénéficié de la baisse physique des Niçois pour pouvoir faire la différence. Ils ont deux joueurs qui sont Ben Yedder et Slimani qui sont extraordinaires. À eux seuls, rappelez-vous, je vous l'avais dit, ils ont chaviré Marseille sur 25 minutes tranquillement. C'est après, ça a lâché derrière. Mais autrement, cette équipe-là, si elle se pose un petit peu, si elle arrive à se mettre en place, parce que de repasser en 3, un système de 3, c'est jamais évident, c'est jamais facile. Il y a pas mal de turnover, de joueurs nouveaux qui sont arrivés. Donc ça permet une petite bouffée d'oxygène au coach parce que tout le monde l'attendait au tournant. En tout cas, les joueurs ont répondu présent, mais c'est pas fini, ils sont encore très très loin.
Chérif, je sais que vous êtes un admirateur de Leonardo Jardim depuis qu'il est arrivé. On sait qu'il y a eu une réunion la semaine dernière entre Leonardo Jardim et ses joueurs, et c'est les joueurs qui ont réclamé ce changement en 3-5-2, c'est-à-dire ce changement tactique. Est-ce que selon vous, c'était dicté finalement par l'évidence?
Alors déjà, preuve que Jardim n'est pas un dictateur comme on l'a souvent dit. Il écoute ses joueurs, il est à l'écoute. Le changement, il est en cours, mais pour moi, il n'est pas achevé. Le collectif n'est toujours pas trouvé. Il y a encore des hauts, des bas, il y a des périodes...
Mais les errances de Jardim sont étonnantes, non?
Les
errances sur les choix des joueurs, parce que...
Il y a un effectif pléthorique aussi. Hein.
Il y a un effectif...
Pour trouver des solutions.
Effectif pléthorique. Des joueurs qui ont été absents, des absents, il y a comment... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a rappelé. En fait, on a rappelé Jardim, c'est pour reconstituer le puzzle qu'il avait su constituer il y a 3 ans ou 4 ans quand il était arrivé. C'est aussi pour ça, c'est parce que bon, il connaît un peu la maison et je pense que le choix, il est pas idiot. Lui, il connaît vraiment la maison.
Maintenant,
il y a une saison qui est complètement plombée et dans l'esprit, ils y sont encore. Donc, on reconstruit pas comme ça. Je veux dire, un type comme Lecomte, pour moi, qui est vraiment au port de l'équipe de France, on le reconnaît plus. Mais c'est pas parce qu'il est devenu nul. Il y a quelque chose qui se passe.
C'est l'influence.
Ça
va mieux déjà.
Maintenant, ça va mieux. Déjà, on retrouve le Lecomte. Donc, ça me plaît beaucoup.
Il fait gagner des points.
Voilà. Devant, il y a aucune raison que ça ne marche pas. Maintenant, c'est trouver un équilibre. Un milieu de terrain, il y a Bakayoko. Maintenant, on commence à retrouver le gros Bakayoko.
Même Fabregas.
C'est en train de se mettre en place. Alors, viser le titre cette année, faut même pas y compter. Le podium, je sais pas. Mais, faut laisser du temps à Jardim. Et je pense que il a constitué le puzzle il y a 4-5 ans. Faut lui laisser le temps de le reconstituer à nouveau. Mais pas pour être compétitif cette
année.
Oui, juste rappeler, parce que c'est toujours assez marrant de le rappeler, hein, Jardim viré la saison dernière, à peu près à la même période, rappelé en janvier, et qui a failli de nouveau être viré au début de l'automne cette saison. Alors les dynamiques sont un peu différentes, parce que l'année dernière, ils avaient commencé par une victoire pour ne pratiquement plus jamais gagner avec Jardim, alors que là, c'est l'inverse. Ils attendent cette période qui aurait pu être dramatique pour enfin gagner. Mais il me semble, juste pour revenir sur les choix de Jardim hier, que le brassard et de la liberté derrière les attaquants pour Fabregas, au-delà de, des statistiques de Golovin, qui lui a d'ailleurs a reculé plutôt d'un cran. C'est peut-être ça le vrai détonateur pour la saison de l'ASM.
J'ai envie de dire oui, et en même temps, le vrai souci de Monaco, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, si je peux rebondir. D'abord, il a un effectif pléthorique, il y a beaucoup de joueurs qui ont été prêtés, et dans ceux qui restent, quand vous avez Fabregas, Bakayoko, Golovin, Slimani, Ben Yedder, les autres, ils sont remplaçants d'office. C'est qu'il y a très peu de concurrence finalement à Monaco. Il y a beaucoup de joueurs, mais il y a très peu de concurrence, parce qu'il y a des joueurs qui s'imposent d'eux-mêmes à quasiment tous les postes. En tout cas, je ne parle pas de la défense, mais au milieu et devant, premièrement. Deuxièmement, le vrai souci de Monaco, c'est que les joueurs sont irréguliers. C'est que Fabregas a fait un super match hier, sauf que depuis qu'il est arrivé, il en a fait combien des super matchs ? Golovin, je veux bien qu'il ait beaucoup été blessé, mais quand il a joué, est-ce qu'il a toujours été au niveau d'hier ?
Non, mais il a été beaucoup blessé.
Il a été beaucoup blessé, mais il n'a pas toujours eu ce niveau quand il jouait.
Je suis d'accord avec toi.
Et le troisième souci, au-delà des irrégularités des joueurs qui sont censés être les joueurs cadres, pas parce que Fabregas, c'est un joueur cadre à un moment donné, il y a l'expérience qu'il a, tout ça, il est champion du monde. En plus, bon. Troisièmement, vous n'avez aucun défenseur de haut niveau à Monaco. Pour essayer d'exister en championnat, de jouer les places européennes, d'être compétitif face à Lyon, face à Marseille, face à Paris, faut une bonne défense. Ils n'ont aucun défenseur de haut niveau. Et la lueur d'espoir qu'on a vue hier, parce que tu as un beau secteur offensif, jusqu'au mois de décembre, ça sera éphémère parce que vous aurez systématiquement le problème de la défense. Vous n'avez aucun défenseur de haut niveau à Monaco. Ouais. Point.
Bon. Alors on verra dans les matchs, dans les prochains matchs.
Oui. Golovin, c'est des exploits personnels aussi. Hein. Il s'est toujours pas intégré dans un collectif qui de toute façon n'est pas encore en place. Parce que sinon, Golovin, s'il n'est pas bien dans un collectif,
C'est Bernardo Silva. C'est un garçon qui est pétri de talent individuellement, mais qui ne fait pas gagner l'équipe. Bernardo Silva, Monaco, c'est un joueur fabuleux, et il est toujours fabuleux. Mais si Fabinho, si Bakayoko, si tous ces mecs-là n'étaient pas forts autour de lui, il n'était pas fort. Et Golovin, aujourd'hui, tu vois hier le niveau de Slimani, de Fabregas, il est très bon. Si la semaine prochaine, dans 15 jours, il retourne dans leur travers, il te fera jamais gagner.
Marc?
Si vraiment les joueurs monégasques si le coach a demandé aux joueurs monégasques de l'aide, c'est-à-dire pour trouver une solution. Moi, je l'ai vécu trois fois dans 15 ans de ma carrière. Et les trois fois, c'est un appel au secours du coach. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, le coach, parce que j'imagine, qu'on fait? Ils nous réunissent, qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. Quand un coach vous dit ce genre de choses, les trois, je vais pas les citer, ont été virés, ils ont pas passé 30, 35 jours. Non, mais, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui doit faire, moi, j'apprécie en jardim. Et si, quand j'entends ça, je me dis, c'est pas possible. Si le gars, il se permet de demander ça, c'est vrai, je l'ai vécu. Mm-hmm. Mais alors donc, ça va pas aller loin, parce que là, si on demande aux joueurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est plus compliqué.
Mais Chérif parlait de temps, mais il est arrivé en janvier, et théoriquement, un peu à la Zidane, on se disait, même si l'année est pourrie, il préparera peut-être celle de l'année d'après, et c'est pour ça qu'on s'étonne un peu. Mais on verra, on y reviendra sur Monaco.
Jardim n'est pas sauvé, j'ai pas dit ça non plus.
Non.
J'ai bien compris que la lueur d'espoir était très faible, en fait.
Il s'est sauvé hier soir.
Ouais. Parlons de l'OM. L'OM qui a dû se contenter d'un match nul, Marc, hier. Un petit 0-0, arraché à Dijon. Mais dans une rencontre où, il faut le dire quand même, les Marseillais sont arrivés sans leur cadre. Alors, il y en a quelques-uns quand même, mais Dimitri Payet, puni d'un carton rouge, et puis d'autres, sans sa défense aussi, puisqu'on parlait de défense. Est-ce que finalement, l'OM s'en est bien sorti?
Ah oui, ils s'en sortent bien,
à Dijon.
Ah ouais,
ils sont toujours sur le podium.
Ils sont toujours sur, parce que ce soir, il y a une journée quand ils vont un petit peu jouer, les autres. J'ai toujours beaucoup de mal avec cet Olympique de Marseille qui. Alors, il n'y a pas les cadres. Les cadres, on parle de Payet, mais il a fait l'imbécile pour se retrouver, pour subir sûrement trois matchs.
Ouais, c'est un peu sévère, mais bon.
C'est un petit peu sévère, mais on ne doit pas faire ça. Mmh. Malheureusement, ça devient très compliqué. Même quand on revient sur les matchs face à Saint-Etienne ou face à Nice, la plupart du temps, dès qu'il y a une attaque offensive de l'équipe adverse, Marseille est en danger. Mandanda ne va pas les sauver à chaque fois. Il va
on
pas les sauver.
Mandanda, d'ailleurs.
Parce qu'on retrouve Mandanda. C'est-à-dire que la seule satisfaction, c'est que Mandanda était mort, il était fini. Ouais. Il n'est plus en équipe de France. Et depuis, actuellement, c'est un des meilleurs.
On va
se rappeler Slimani qui fait un amorti poitrine, ciseaux retournés, il fait claquette, trop. Non, mais pour dire. Donc là, aujourd'hui, c'est Mandanda qui les sauve. Mais il faut pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire qu'à l'état de ça, on a bien vu que c'est plus possible. Alors, il n'y a personne d'autre. On a vu dès le départ sa relance, on se dit oh là là, le match, quelle catastrophe, c'est plus possible. Donc ça va être très difficile pour cette équipe marseillaise. On sait très bien qu'ils n'ont pas de banc. Il y a un jeune qui s'appelle Perrin qui a démarré hier, qui est plutôt pas mal, qui est intéressant. Maintenant, de là à le mettre au Vel devant 60 000, dès le départ, on n'a peut-être pas le choix, mais en tout cas, bravo à ce jeune, mais en tout cas, qu'est-ce que ça va être dur pour Marseille. Et là, Benedetto, qui est pour moi un attaquant très intéressant, si on n'a pas du monde à côté qui est capable de le faire jouer comme Germain, ça va être très très difficile pour cet OM là, et franchement ils s'en sortent bien.
Naïm.
À peu près tout a été dit. La seule circonstance atténuante que je vois, moi, à l'OM hier, c'est que l'absence de charnière centrale, Camara-Alvaro, a peut-être contraint Villas-Boas à demander à son milieu de rester très bas. Et forcément, ça a un peu influé sur le jeu, parce que Strootman, bon, il a pas été terrible, mais à la rigueur, on l'a très peu vu monter. Lopez, il a été inexistant. Si ces mecs-là sont inexistants, Alvaro peut pas, Benedetto peut pas avoir de ballon. Mm-hmm. Mais effectivement, l'OM a été mauvais. Mais
il rate le 1-0 quand même, en même temps. Il rate le 1-0.
Il rate le 1-0, mais ils ont été mauvais, en fait. Ils ont été, et surtout, ce qui m'a inquiété le plus, c'est que les 20-25 dernières minutes, à peu près, ils sont morts. Physiquement, ils sont morts. Cuit dur, rincé. Ils jouent pas l'Europe. Bon. Ils ont un match par semaine, ils jouent une équipe qui est quand même à la ramasse depuis le début du championnat. Et sur les 20-25 dernières minutes, ils sont cuits durs. Et ça c'est inquiétant. Ouais. Ça, c'est très inquiétant.
Hugo, on n'arrive pas à trouver beaucoup de lumière positive.
Oui, j'ai trouvé un petit peu...
Que ce soit pour Monaco, pour Marseille...
Naïm, qui est un homme du Nord, hein, il faut quand même dénoncer ce qui doit être dénoncé. Bah, c'est le Nord de Paris. Donc c'est
le
Nord de la France. Et qui est extrêmement dur avec les équipes du Sud de la France, de la Côte d'Azur. Marseille, contrairement à Monaco, n'a pas un effectif pléthorique. Il y avait pas mal de blessés pour le déplacement.
Oui, mais Marseille a quand même un effectif qui se connaît. Un effectif qui a déjà joué ensemble.
Ouais.
Voilà, c'est aussi et ils ont quand même quelques individualités
sur l'aspect physique, ça joue peut-être aussi quand vous n'avez pas une profondeur de banc et que vous avez des blessés, ben peut-être que oui.
Pas ce niveau de la saison, pas maintenant. Si on a un coup de fatigue, c'est mi-novembre, c'est pas là.
Il y a pas beaucoup d'internationaux en plus.
Si le 24 septembre, tu ne peux jouer qu'une heure face à la Lanterne Rouge de Ligue 1, fais les papiers pour descendre en Ligue 2 tout de suite. Parce que ça va pas être possible.
Juste rappeler que Marseille n'a perdu qu'un match cette saison, c'était le premier de Ligue 1 depuis.
Mais c'est un match qui disait beaucoup.
C'est pas toujours glorieux, mais
c'est un match qui disait beaucoup. La défaite contre Reims.
On va descendre plus au sud. Ça vous embête pas, Naïm?
Non, on peut parler de Montpellier-Nice.
On va parler d'Amiens.
Pas tout de suite. Là, on va partir du côté de la Catalogne.
C'est la première titularisation du trident Messi, Suárez, Griezmann.
Tridente por primera vez de titulares Messi, Suárez y Griezmann.
Messi pour ce corner, la déviation et le but marqué par Antoine Griezmann sur ce corner tiré par Léo Messi. Très positif pour Griezmann au cœur de ce trident. Arthur, la frappe. Oh là là, le pont passant marqué par Arthur, quelle frappe! Très très peu d'élan! Et Barcelone s'impose et gagne un match difficile, 2-1 pour le FC Barcelone.
Le bombasso, hein, vous avez entendu, on apprend des mots dans ces retransmissions de match et c'est toujours amusant. En tout cas, on les a vus se sauter dans les bras l'un de l'autre. Un grand sourire aux lèvres, les deux grands joueurs Blaugrana que sont Lionel Messi et Antoine Griezmann. Parlent-ils enfin le même langage? Vont-ils enfin s'entendre sur la pelouse? Tout le monde est aux aguets. Shérif Guémour.
Sur le papier, oui, ces deux joueurs intelligents, ces deux grands joueurs. Les grands joueurs, les vrais bons joueurs finissent toujours par s'entendre. Il y a un début, Messi n'est pas à 100%. Bon, alors après,
déjà blessé, on va y venir.
Ouais, voilà. Donc après, c'est un but sur corner.
Mais est-ce que cet abrazo bien visible devant les caméras, c'était un message?
C'est un premier pas. Je ne sais même pas s'ils ont quelques entraînements ensemble. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Messi n'était pas très chaud à l'arrivée de Griezmann. Bon, là, ils vont devoir s'entendre. Il y a pas de raison. Donc, mais par contre, faut que ce soit des joueurs qui sont au top, que aussi le collectif, parce que c'est pareil. Je vois cette équipe de Barcelone, mais bon, par moments, c'est anarchique. Comment ils subissent? Comment l'équipe est coupée en deux? J'ai du mal à la suivre. Je crois que Naïm va rentrer dans les détails, notamment au niveau du milieu de terrain, parce qu'on a.
On va donner la parole à Hugo.
Mais il n'y a pas de raison que sur le papier.
On aimerait bien même qu'ils s'entendent bien, non?
Hugo. Il n'y a pas de raison.
Oui, d'ailleurs, Griezmann a rappelé lui-même je ne vais pas si mal, j'ai mis 3 buts en 6 journées. Mais donc oui, effectivement, c'est pas si mal. Bon, il me semble que dans ces 3 buts, tous n'ont pas été marqués en présence de Lionel Messi aux côtés de Lionel Messi. Bon, c'est un petit peu impensif quand même, tous les joueurs peuvent s'entendre. Et Messi, il a parfois montré dans sa carrière que quand il y avait d'autres bons joueurs à ses côtés. C'est pas forcément l'entente,
ça
n'est pas forcément évident.
Ces joueurs qui
et en sélection et en club, je pense à Zlatan, je pense
à
Dybala en sélection,
Zlatan ou même Thierry Henry. Dybala c'est pour un autre, voilà. Dybala et Icardi c'est pour d'autres raisons, mais
Thierry Henry ça marche.
Un exemple comme Zlatan,
ça fait beaucoup la liste quand même.
Il voulait être le leader.
Voilà,
c'est ça. Mais si ça le dérange pas de jouer avec des grands joueurs, ce qu'il veut lui par contre c'est être le taulier, c'est lui qui commande. Avec Zlatan c'était pour ça que ça passait pas. Je crois quand même Griezmann et Messi sont très intelligents tous les deux. Griezmann il vient d'arriver dans un club qui ne lui est pas acquis, il a besoin de Messi pour se faire intégrer. Messi il est pas idiot, il a donné il y a très peu de temps une interview, je crois que c'était à Sport, au site Sport en Espagne, il a dit moi j'ai un contrat avec le Barça, je veux rester au Barça, par contre il faut quand même qu'on gagne des titres. Et qu'aujourd'hui le moyen de gagner des titres pour Messi c'est quand même d'avoir un Antoine Griezmann à côté de lui. Il a plus de chances de gagner des titres avec Griezmann que sans. Donc les deux vont forcément s'entendre, vont jouer ensemble. Ce qui m'a plu moi hier, au-delà du match qui n'a pas été extraordinaire, au-delà de tout ce qu'on veut, de la blessure de Messi, il y a des automatismes, tout ça, ce qui m'a plu quand même hier, c'est que sur certaines séquences, quand j'ai vu Messi repasser en 10 et Suarez et Griezmann jouer en pointe ensemble, les trois, ça jouait bien. Ils ont très peu de temps de jeu ensemble finalement.
Mais oui,
ils, ça jouait bien.
Sur
certaines séquences, j'ai vu les trois ensemble combinés, faire des décalages, se trouver, jouer vite. Après, et ça, c'est intéressant pour le Barça. Ça, c'est vraiment
quelque
chose.
Après, c'est contre le Villarreal, une équipe qui est joueuse, qui laisse des espaces. On verra sur
mais en Espagne, t'as beaucoup d'équipes qui jouent aussi comme ça.
Marc, est-ce que vous pensez aussi qu'ils sont quand même faits pour s'entendre?
Mais les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble s'ils ont envie de jouer ensemble. Moi, j'ai vu de très grands joueurs ne pas pouvoir se piffrer sur le terrain. Donc, à l'arrivée, il faut qu'il y en ait un qui parte. Et c'était des grands joueurs à l'époque, dans les 90-95 à Marseille. Donc, ça arrive. Maintenant, Griezmann qui évolue aujourd'hui sur un côté gauche, c'est vrai que c'est intéressant quand Messi commence un petit peu à décrocher parce qu'il va y avoir l'âge aussi qui rentre en compte, il est capable d'aller devant. Quid de Suarez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester comme ça? Est-ce qu'il va jouer comme ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gros kiff quand on est Suarez, c'est de se dire j'arrive en Espagne, je gravis les échelons, j'aime Barcelone, je signe à Barcelone et Messi joue, il me fait marquer, je vais lui sauter dans les bras, la photo elle est là, c'est de se dire c'est bon, c'est fait, je suis avec Messi, mais non, j'ai à travailler pour lui, parce qu'automatiquement Messi en début de saison prend le micro et dit on est là, on va vous régaler, tout va bien se passer, c'est vrai, on veut gagner des titres, mais il sait très bien qu'il y a un intérêt parce que Griezmann est capable de jouer avec tout le monde et Griezmann est très intelligent, il peut marquer des buts et il peut vous faire marquer, donc Messi a tout à gagner. Maintenant, en bonne intelligence pour tous les deux, et je pense que ça va aller.
Il y avait eu cette petite déclaration, on s'en souvient, qui avait un peu jeté un franc en disant oui, je le connais, mais sans plus.
Ouais,
mais un petit mot sur Ansu Fati qui rentre, Naïm, dans ce match. Luis Suarez était un peu moins pistolero que d'habitude.
Il n'a pas été bon.
Oui, il a même été sifflé.
Par une partie seulement.
C'est à se demander si c'est pas lui qui va...
Si je peux me permettre, Hugo Moissonnier, de défendre Luis Suarez, qui est aussi un garçon du Nord. Luis Suarez, chaque année, chaque année, on nous explique que c'est la fin, qu'il est cramé, que c'est terminé, qu'il faut qu'il sorte. Chaque année, vous mettez 30 buts, 15 passes décisives, Luis Suarez.
Un peu moins.
Alors, il est pas bon hier. Oui, mais ça arrive de pas être bon. Mais on fera les bilans, ne serait-ce qu'au mois de décembre. Vous allez voir qu'il va marquer.
Il n'a marqué que dans un seul match.
Ils auront besoin de tout le monde, y compris Suarez.
Allez, on y reviendra à ce Barcelone.
On ne parle pas d'Ansu Fati, du coup.
Si, vous avez dit qu'Ansu Fati,
c'est un très bon joueur.
Il y avait de la place pour tout le monde, j'ai bien compris.
C'est un très bon joueur.
Mais Suarez n'était pas terminé.
Suarez n'est pas terminé.
On aura besoin de tout le monde.
Jamais terminé.
On aura besoin de tout le monde, je suis d'accord.
Excusez-moi, mais j'aurais aimé qu'on fasse un petit tour par l'Allemagne.
Allons-y.
C'est pas au nord, c'est à l'est. Allez, on va à l'est.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Aux Lyonnais qui donnent de la voix, et lorsque l'ancien attaquant parle, eh bien le football allemand l'écoute, tremble peut-être pas, mais en tout cas l'écoute. Le dirigeant du Bayern Munich a décidé de se mêler à la concurrence que se mène sur le terrain, c'est bien ça Hugo, hein, les deux gardiens de la nationale Mannschaft, et on a l'impression que Lyonnais est un peu rentré sur le terrain.
Oui, il est un peu rentré sur le terrain, il a même... opérer un dépassement de fonction, hein, on peut le présenter comme ça. Nous n'accepterons jamais qu'il y ait un changement. Mais les gardiens allemands, c'est ça, ils sortent de leur zone. Nous n'accepterons jamais qu'il y ait un changement de gardien en sélection. Avant que cela n'arrive, nous ne mettrons aucun international à la disposition de la sélection. Alors, des propos rapportés mercredi. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait un léger rétropédalage, en tout cas un peu de nuance apportée à ces propos.
Mais
il a nié avoir parlé trop vite selon les services selon ses services au club, nous dit l'agence France Presse.
Voilà, la dispute, c'est entre les deux gardiens, Manuel Neuer, un peu l'incontournable, celui qui est là depuis avant 2014, et ce si grand gardien, et puis Ter Stegen, qui a un peu dit publiquement qu'il ne comprend pas pourquoi on ne lui donne pas sa chance. Est-ce que Lyonnais pouvait se permettre, Marc, est-ce qu'il avait le droit de dire « moi, je file pas mes joueurs ». Il y en a 4 quand même parmi les titulaires qui sont en équipe d'Allemagne, et 5 si on compte aussi tous ceux du club.
C'est vraiment maladroit et c'est pas vraiment intelligent de sortir ce genre de choses. Pour moi, la sélection reste au-dessus de tout. On peut pas se permettre de dire ça à tout le Bayern qu'il est. Après, je me pose la question de ce que pensent les joueurs aujourd'hui, parce qu'il y a des joueurs quand même qui ont été cités. Mes joueurs, je les envoie pas. Mais attends, mais moi, je suis joueur de Bayern. Pourquoi tu dis ça? Moi, le problème, il est là, parce qu'il avait mal vécu déjà que 3 joueurs ne soient pas. Mais en fait, il a qu'à être sélectionneur. Aujourd'hui, Ter Stegen, sur les matchs de Ligue des Champions, ce qu'il est capable de faire avec le Barça, il est énormissime. Neuer, on l'a perdu de vue parce que blessure, parce que problème. Donc, c'est son retour.
Il est pas revenu, hein, pour moi.
Non, il est pas revenu.
Pas à 100%.
Justement, ouais.
Voilà. Mais aujourd'hui, on peut se dire que, Ter Stegen, 27 ans, l'autre 33. Malheureusement, pour Neuer, c'est que, il y avait un monstre avant lui qui a joué jusqu'à la vie du temps et que, malheureusement, son temps est peut-être écoulé. Mais Ter Stegen est incroyablement bon. Quoi.
Et peut-être
Et Neuer, malheureusement...
espérait rester beaucoup plus longtemps.
Non, mais est-ce que ça vient de Neuer qui va faire un caca nerveux à son directeur sportif? Pas bien, c'est pas ci, c'est pas là, je veux revenir.
Je crois pas.
Non, je sais pas. Mais en tout cas, on s'occupe pas des joueurs. Attention pour les joueurs aussi.
Shérif.
D'abord, il y a une tradition en Allemagne, c'est la longévité. Aussi bien au niveau de la Fédé, au niveau des sélectionneurs et au niveau des joueurs. On aime bien avoir des longues carrières.
Joachim Löw qui est là depuis 2006.
Voilà. Mais, depuis 1945, vous verrez, il y a très peu de sélectionneurs en équipe d'Allemagne. Je crois même qu'ils battent des records parce qu'en général, il y a toujours une longévité. Et c'est pareil en politique. Que ce soit Angela Merkel et Moukoul. Vous pouvez vérifier.
Donc c'est un trait de l'Allemagne.
Voilà. C'est un trait. Je vous le dis.
Donc l'allemand est fidèle.
L'allemand est fidèle. Est fidèle. Et fait dans
ça
la,
sera le mot du jour.
Et fait dans la longévité, Deutsche qualité. Voilà. Maintenant, pour en revenir à Neuer et Ter Stegen, ces deux gardiens extraordinaires. Je pense que Ter Stegen est au-dessus aujourd'hui. Donc comment on gère ça? C'est l'affaire du sélectionneur et pas l'affaire de Ulianès. Maintenant, pour en venir à Ulianès. Alors là, maintenant, le personnage, c'est un rebelle fondamental. Il avait déjà fomenté un petit coup d'état à la fin des années 70 avec Breitner, justement parce que le club manquait de considération aux joueurs. Il a toujours été comme ça. Ensuite, il veut maintenir, ce qui est très important en Allemagne, c'est la matrice Bayern de la Mannschaft.
Il y a un lobby bavarois, c'est vrai.
Un lobby...
c'est vrai.
Allez, je prends. Bien, la matrice, comme la Juventus, c'est la matrice de l'équipe d'Italie.
Oui, sachant que certains cadres avaient été écartés d'équipe d'Allemagne.
Pour en venir au côté un peu syndicaliste, un peu rebelle et tout de Lyonnais, c'est lui, à juste titre, qui avait mis en demeure l'UEFA d'indemniser les clubs quand ils étaient blessés avec la sélection. Donc voilà, c'est une grande gueule, un rebelle, et qui défend son club, l'intérêt et ses joueurs.
Naïm, moi je vous avais demandé, et je pense qu'on a déjà un petit peu répondu, mais en fait peut-être que le malaise en plus bavarois vient justement, c'est ce que rappelait Hugo, de ces 3 joueurs qui ont été écartés par Joachim Löw, que sont Boateng,
Hummels, ce n'est plus là.
Qui l'avait très mal pris, oui,
c'est
il est reparti
ça,
à
c'est
Dortmund,
pour ça que je parle de lobby bavarois, c'est que le Bayern a toujours eu une mainmise sur la sélection, parce que c'est le premier pourvoyeur de joueurs,
oui.
Et qu'à un moment donné, là où c'est pas très intelligent de la part d'Uli Hoeneß, c'est que admettre en public qu'il enverra pas ses joueurs si Neuer n'est pas le numéro 1, c'est admettre que Neuer est en difficulté. Et il fait une erreur monumentale de communication. Deuxièmement,
c'est un geste de faiblesse, ouais.
Deuxièmement, on rappelle quand même que Uli Hoeneß va quitter la présidence du Bayern Munich, que c'est Herbert Reinhardt qui va prendre la succession, donc pourra dire ce qu'il veut, il ne sera pas écouté. Et que
c'est troisièmement, un peu un bras d'honneur alors.
Troisièmement, aujourd'hui, si vous prenez les résultats de l'équipe d'Allemagne, si vous prenez les dernières prestations de Manuel Neuer, je pense qu'on est à un moment donné de la vie de l'équipe où il faut changer de gardien. Voilà, c'est un moment, voilà, c'est tout.
Ouais. Juste pour dire que Uli Hoeneß ne peut pas faire toujours tout ce qu'il veut, puisque si vous refusez d'envoyer vos joueurs en sélection, vous exposez à des sanctions, des amendes, des interdictions de compétition. Voilà, ce sont les règlements de la FIFA.
Mais il le sait, hein.
Ah oui.
L'Allemagne ne peut pas se le permettre.
Et l'Allemand est fidèle. C'est le mot du jour.
Longévité, tradition.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, Laurent Salerno à la réalisation et Ralph Samouri, notre stagiaire. À demain.